Une exposition très spéciale, flamboyante en fait, en cours au centre d'exposition Lethbridge à la bibliothèque du Boisé à Saint-Laurent jusqu'au 4 juin. Hein. C'est l'aboutissement d'une collaboration entre trois établissements de taille dont on parlera tout à l'heure, de tout un long processus dont on parlera aussi. Et c'est une exposition qui est titrée « Pellant et Shakespeare, hein, le théâtre des rois ». Alfred Pellant, hein, qui est une figure de proue dans le milieu visuel, vraiment le premier à s'illustrer sur la scène française, a œuvré comme peintre, illustrateur, muraliste, mais aussi comme costumier, accessoiriste, scénographe, c'est peut-être un petit peu moins connu. Et l'exposition qui s'intéresse à son implication au théâtre, particulièrement dans la pièce « La nuit des rois » créée en 1601, eh bien, j'ai vraiment, pour nous en parler davantage que je ne le fais dans le cadre de cette entrée en matière, j'ai le plaisir de recevoir en studio Margot Delmas, hein, coordonnatrice à la médiation et aux communications au Centre d'exposition Lethbridge. Bienvenue, quel plaisir de la grande visite en studio. Alors, si d'abord on parlait un petit peu de Pellant, donc un pilier du milieu visuel, hein, quelle était sa contribution? On va se centrer, on fera pas le tour de sa vie parce qu'on en aurait pour un bon moment, mais on va se centrer sur sa contribution dans le costume, dans le théâtre, dans l'accessoire, avec peut-être à la lumière de certaines de ses influences, un fauviste, cubiste, surréaliste.
Mais oui. En fait, c'était assez courant que oui. Les artistes aillent implanter leur art dans d'autres domaines. Mm-hmm. Quand Pellant était en France, il côtoyait justement, par exemple, Picasso qui faisait des décors pour les ballets russes. Donc, quand il est revenu au Québec, il s'est d'abord essayé avec du théâtre pour enfants. C'était Madeleine et mm-hmm. Pierre en 45, et ensuite il a pu travailler pour les Compagnons de Saint-Laurent mm-hmm. en 46.
C'est une étape importante, hein?
Oui. Oui, parce qu'à l'époque, le théâtre était encore très très classique dans sa représentation. Et il a vraiment fait tout un travail d'adaptation pour une scénographie et des costumes nouveaux.
Oui, mais vraiment avec l'époque du TNM, là, qu'il a pris son envol.
Je dirais que son
au Québec,
s'est affirmé oui. au fur et à mesure, mais son essence se retrouve énormément dans les costumes déjà de 46.
Oui.
46, il manquait beaucoup de temps, donc il allait comme préparer finalement le terrain pour 68 quand il allait avoir plus de moyens, plus d'aide et pouvoir achever totalement sa vision de la pièce de la Nuit des Rois.
Oui, c'est ça. Et vraiment, au niveau de son approche, hein, parlez-nous un petit peu de son approche, comment il travaillait, puis quelles étaient ses sources d'inspiration?
Alors, ben, dans le fond, au début, en 46, il avait très peu de temps pour travailler. Ouais. Donc, le père Émile Legault, mm-hmm. qui était le chef des Compagnons de Saint-Laurent, si je puis dire, lui avait décrit les personnages avec des mots-clés pour les décrire en tant que personnalité. Et avec ça, il a travaillé au costume pour représenter ses personnalités de manière visible, c'est-à-dire que les personnages puritains allaient par exemple avoir des aspects très osseux, le personnage gourmand allait être gros avec une fourchette, un couteau sur le ventre, quelqu'un d'amoureux allait forcément se retrouver avec un cœur quelque part sur son costume. Il y avait vraiment une idée de représenter visuellement qui était chaque personnage.
Et par la suite, il y avait aussi une question de contrainte de temps. Hein?
Il avait juste un mois pour réaliser autant les costumes que les décors, que les accessoires, que les maquillages aussi. Donc, c'est très peu de temps et très peu de moyens à ce moment-là.
Et là, il allait jusqu'à peindre sur les costumes. Hein?
Au tout début, il prenait le temps encore de faire des appliqués de tissu cousu à la main. Et à la fin, le temps allant de plus en plus vite, il a fini par peindre. Et d'ailleurs, il a ajouté des éléments décoratifs qui n'étaient pas prévus sur les esquisses à la base.
Oh là là!
C'était le piège un peu de la peinture et d'aller plus vite que la musique. C'était ça.
Voilà. Alors, il était tout à fait perçu comme quelqu'un qui pouvait relever des défis, donc d'où vraiment le recours du TNM, Alfred Pellant.
Oui, mais il faut savoir que les fondateurs du TNM étaient dans les Compagnons de Saint-Laurent.
Oh, donc, d'accord.
Il y avait déjà
Jean-Louis Roux, c'est ça, Gascon. Exactement.
Les deux, en fait, oui. Ça y était. Et donc, l'idée de remonter la pièce à Nuit des Rois s'était proposée presque automatiquement. On va retravailler avec Pellant et on va achever sa vision. On va lui donner, parce qu'ils avaient eu une subvention à ce moment-là, les moyens d'avoir des couturières, des costumières, une chapelière pour vraiment tout faire avec lui.
Enfin, il y avait les moyens à sa disposition pour aller jusqu'au bout de son rêve.
Oui.
Vraiment. Alors, si maintenant on parlait un petit peu de l'exposition, hein, qu'on quitte à voir les différentes sections d'exposition, là, on fait un beau parcours dans l'univers et le processus de Pellan.
Oui, ben dans le fond, l'exposition a été séparée en autant d'actes qu'il y en a dans la pièce. Donc, on a les cinq. On a vraiment fait ça. On a travaillé avec le Cégep du Vieux-Montréal, avec des étudiants en design de représentation, et c'était leur travail de monter une scénographie intéressante, et on a sélectionné des éléments qui pouvaient s'ajuster plus facilement à notre pièce. Mais oui, cinq actes qui reprennent les moments clés, donc le triangle amoureux, la farce... le faux semblant, le duel et finalement le mariage.
Ah, parce que bien sûr.
Shakespeare, ça finit toujours par un mariage.
Et voilà, oui. Et parce que la nuit des rois, il y a toute une histoire hein, qui, qui implique même du travestisme.
C'était un thème assez, assez important d'ailleurs dans les pièces de théâtre de Shakespeare. Tout le monde se déguisait, puis il y avait toujours la couche supplémentaire. Que parce que les comédiens ne pouvaient être que des hommes,
voilà.
Il y avait toujours donc des hommes qui se déguisaient en femmes, qui se déguisaient en hommes. C'était vraiment très perturbant.
Se déguisant en homme, probablement.
Oui, exact. Oui,
on va le souhaiter que ça puisse arriver. Mais c'était probablement plus des hommes qui se déguisaient en femmes à l'époque.
Je vais pas m'avancer là-dessus.
Donc vraiment une scénographie d'exposition divisée selon les cinq actes. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur place, parce que j'ai vu que c'est bien documenté. Hein. Vous avez une personne, une spécialiste qui a travaillé hein, à cette exposition-là, qui est Roxane Martin.
Roxane Martin, c'est ça. On a eu le plaisir de travailler avec elle pour le catalogue de l'exposition.
Oui.
Pour ce qui est des textes dans la salle, en tant que telle, c'est vraiment des recherchistes pendant plusieurs années qui sont venus travailler avec nous.
Dont vous, je suppose.
Non, malheureusement, pas moi. Pas sur ce point. J'ai pu contribuer à autre chose, mais pas sur les recherches, mais les textes, c'est une élaboration commune et bien documentée, oui, ça c'est sûr.
Oui, alors dans les différentes sections, ce que moi j'ai pu observer, c'est qu'il y a bien sûr des costumes absolument flamboyants. Écoutez, c'est un ravissement pour les yeux. Ils sont hauts en couleur et vraiment imaginatifs. Certains vraiment, l'imaginaire un peu débridé, hein?
Oui, mais c'est sûr. Nous, on a fait le choix de mélanger les costumes de 1946 et 1968 plutôt que d'y aller chronologiquement, c'est ce que je disais, on y est allé avec les actes. Et donc, les personnages qu'on retrouve dans chaque partie de notre salle d'exposition, c'est les personnages ou de l'intrigue principale de l'acte.
Mm-hmm.
Et ça permet des fois de voir l'évolution du costume de 46, voir l'ébauche, ce qui reste de celui de 46, puis finalement celui de 68 qui est souvent comme complet avec les accessoires. Il y en a même un, on a encore ses bottes. C'est quand même assez pertinent de le voir de la tête aux pieds.
Et pour accompagner ces costumes, il y a des œuvres au mur, hein?
Oui, on a quand même été aller chercher des photographies d'archives. On en a trouvé de 1946, qui permet de voir des fois les costumes en entier. Et on a aussi la chance d'avoir eu accès aux clichés de André Lecause et qui prenait les photographies pour les représentations du TNM. Donc, on en a autant sur les représentations sur scène, mais aussi dans les coulisses. Donc, les personnes qui se maquillent, les couturières en plein travail, Pellan dans son atelier. C'est quand des très, très belles, très belles images.
Et il y a des maquettes, hein?
Oui. On a les dessins préparatoires pour certains décors. On a donc des fois le jardin, les rues, les palais. Ça donne une idée globale quand même de l'ambiance qu'il devait y avoir sur la scène.
Alors, c'est extraordinaire. Et là, c'est tout un processus qui a été réalisé de longue date en trois établissements. Lesquels?
Alors, il y a eu le Musée des maîtres et artisans du Québec qui détient les costumes de 1940. Il y a le Théâtre du Nouveau Monde qui détient les costumes de 1968 et il y a la galerie Stewart Hall à Pointe-Claire qui nous a permis de présenter une exposition bilingue entièrement. Donc, c'est très, très important.
Et beaucoup de recherches. Donc, beaucoup de recherches. Et on a oublié peut-être de parler de l'aspect sonore, le volet sonore à l'exposition.
C'est vrai.
C'est très important.
Dans chaque acte, on a des comédiens qui ont bien voulu réinterpréter certaines scènes pour nous en français et en anglais. Et donc, ça anime nos mannequins, finalement.
Une visite qui vaut tout à fait le déplacement à Saint-Laurent. Et ce n'est pas si loin, non, pas du tout. Et peut-être qu'on terminera avec des activités à venir dans le cadre de cette exposition-là, d'un atelier de fabrication de bustes, de personnages.
Alors, oui, c'est ça. Il y avait des... des ateliers de buste. Il va y aussi en avoir de décors de théâtre le samedi 20 à 14h dans la bibliothèque du Boisé. Le 27, on va faire des masques. Et le 28 mai, pour la journée des musées, on va avoir une lecture publique de certaines scènes de la pièce. Donc, ça va être intéressant. Une projection de toute la pièce en anglais.
Wow! Okay.
Oui, c'est... Et puis, peut-être quelques petites surprises encore.
Alors, Margot, Delmas, redonnez-moi votre nom de famille, Delmas. Voilà, pardonnez-moi. Merci d'être venu nous visiter en studio. C'est une exposition fortement recommandée par Institut. Plusieurs activités spéciales à venir. Merci.